Les deux orphelines, première partie, chapitre 4. La réunion du soir fut des plus animées. Après la longue absence de Diane, qui laissait un si grand vide dans le cercle des habitués de l'hôtel, chacun était heureux de fêter son retour et de la revoir en aussi bonne santé. Diane, très émue, très touchée des témoignages d'affection dont elle se voyait entourée, en exprimait sa reconnaissance avec une grâce charmante. Le marquis se montrait fier du succès de sa fille, et le comte, appuyé contre la cheminée, semblait absorbé dans une contemplation muette. Le marquis, impatienté, passait et repassait devant lui, en l'encourageant du regard, à mêler ses compliments à ceux dont sa fille était accablée. Mais le pauvre amoureux ne trouvait pas une parole à dire. Heureusement, le maître d'hôtel mit fin à la situation en ouvrant les deux battants de la grande porte. « Monsieur le marquis est servi !» À ces mots, tous les admirateurs de Diane s'avancèrent vers elle le bras tendu. Mais le marquis s'empara vivement de celui de sa fille. « Pardon, messieurs, c'est à moi qu'elle appartient ce soir !» Et, en passant près du comte, il lui glissa à l'oreille. « Tant pis pour vous, mon cher !» Mais il avait eu soin de lui garder, à table, la droite de mademoiselle de Vaudrey. Le souper fut plus joyeux encore que la soirée. Les conversations s'étaient engagées de voisins à voisines sur le ton de la plus exquise galanterie, et le champagne avait provoqué chez tous les convives une gaieté qui enchantait le marquis. Diane, placée en face de lui, devait naturellement faire les honneurs de la table, et elle s'en acquittait avec la grâce la plus charmante. Cependant, un observateur habile n'aurait pas eu grand-peine à voir passer sur ce front si pur quelques petites ombres, indices certains des efforts que la pauvre fille s'imposait pour cacher à ses amis, et surtout à son père, les cruelles souffrances de son âme. L'heure avançait. Le souper tirait à sa fin lorsque, brusquement, le marquis se leva de table. Tous les convives allaient faire comme lui, mais il les arrêta du geste, et prenant un ton solennel, « Mes chers amis, dit-il, je ne veux pas que nous nous séparions sans que je vous aie annoncé une grande nouvelle. Je marie ma fille. » Une exclamation de surprise courut dans toute la salle. Diane avait redressé la tête. J'ai l'honneur de vous présenter mon gendre, monsieur le baron de Lignières. Diane allait parler. Le marquis, de son regard autoritaire, lui imposa silence, puis saisissant son verre. Allons, s'écria-t-il, buvons à la santé des futurs époux. Tous les verres furent remplis et vidés au milieu d'un tumulte général. On était sortis de table, le marquis avait rejoint sa fille, et c'était à qui viendrait maintenant féliciter les fiancés. Le comte s'efforçait de répondre et de sourire. Debout, à côté de Diane, il osait à peine lever les yeux sur elle. Quelques instants après, un laquais annonça. « Les voitures de ces dames !» C'était le signal du départ. Et pendant que la sortie s'effectuait au milieu du brouhaha des félicitations, des commentaires et des poignées de main, le marquis s'approcha de Diane, dont la pâleur ne lui semblait pas de bon augure. « Diane ? » lui dit-il sèchement. « À quoi pensez-vous donc ?»« Mon père !» Il ne lui laissa pas le temps d'en dire plus long. « Rentrez dans votre appartement, il est tard. Mais avant, dites adieu à monsieur le comte, à votre mari. » Diane, toute frémissante, inclina la tête. Le comte sortit enfin de son immobilité et, saisissant de ses mains brûlantes la main glacée de Diane, il l'effleura de ses lèvres. « Oh, mademoiselle, fit-il tout haletant, si vous saviez, si je pouvais vous exprimer toute ma joie, tout mon bonheur !» Mais Diane, qui s'était vivement dégagée, avait déjà gagné la porte où elle fut heureuse de rencontrer Marion pour s'appuyer sur son bras et sortir. Le marquis et le comte l'avaient suivi des yeux. « L'émotion, mon cher, la surprise, doux prélude de l'amour !»« Ah, marquis, répliqua le comte, vous m'aviez si bien promis d'attendre. C'est mal, très mal. Remerciez-moi donc, au contraire. Maintenant, tous les obstacles sont levés. Demain, libre de tout souci, de toute crainte, vous ferez votre cour à la dame de vos pensées. Et dans 8 jours, le mariage. Heureux mortel. Là-dessus, bonsoir, je tombe de sommeil. » La grande nouvelle s'était répandue dans toute la maison avec la rapidité d'un éclair, Et Marion était accourue bien à temps, car sans elle, Diane, à bout de force, n'aurait pu regagner sa chambre. En y entrant, elle tomba anéantie sur un fauteuil. Marion, aussi tremblante qu'elle et aussi pâle, resta un moment à la regarder, puis elle alla fermer la porte et pousser le verrou. Diane alors se leva brusquement et vint s'asseoir devant un petit bureau placé près de la cheminée. « Donne-moi de la lumière, Marion, il faut que j'écrive. »« À pareille heure, et fatiguée comme vous l'êtes, il n'y a pas de bon sens. C'est-y à votre sœur que vous écrivez ?»« Non, c'est à mon père. » »« À votre père, et c'est pour lui dire que nous voulons poindre son épouse ?»« C'est pour lui dire la vérité, Marion, entends-tu, toute la vérité ?»« Oh, misère, non, non, c'est pas Dieu possible. Tu ne feras point ça, ma chère Diane. »« Je le veux. » Et Diane se mit à écrire. Marion était hors d'elle-même. « La vérité, qu'est-ce qu'il en adviendra avec un homme de fer comme le marquis ? Mais j'y somme ben aussi pour quelque chose dans cette vérité-là. Et j'en ben le droit de parler. Et je disons, mais que ça serait une folie. Tais-toi, prends ton chapelet, prie Dieu pour qu'il m'inspire, et plus un mot. » Et là Marion, baissant la tête devant sa jeune maîtresse, s'était assise sur un tabouret. Elle avait pris à sa ceinture le chapelet dont elle faisait passer machinalement tous les grains dans ses doigts, et, au mouvement de ses lèvres, on aurait pu croire qu'elle récitait une prière. Mais sa pensée et ses regards étaient ailleurs. Elle suivait la plume qu'une main fiévreuse faisait courir sur le papier. Quand Diane eut achevé sa lettre, avant de la plier, elle la tendit à Marion en lui disant « Tiens, lis !» Marion hésitait. « Lis, te dis-je » Marion se décida à prendre la lettre et lut à voix basse ce qui suit. « Mon père, il y a 2 mois, une brave femme parcourait d'un pas rapide la route qui conduit de Chevreuse à Meudon à travers les bois. La distance est grande, et la nuit était venue, une nuit noire et orageuse. Après avoir quitté la route pour prendre un sentier qui gagnait la plaine, Marion, car c'était elle, s'arrêta devant une chaumière isolée. C'était là qu'habitait un de ses parents, un brave homme qui n'avait pour vivre, lui, sa femme et l'enfant qu'elle venait de lui donner, d'autres ressources que le terrain qu'il cultivait et dont il allait, chaque semaine, vendre les produits à Paris. Marion, épuisée de fatigue, frappa à la porte qui s'ouvrit aussitôt. On était prévenu de son arrivée, on l'attendait, et elle n'était pas seule. Elle portait dans ses bras un pauvre petit être qu'elle venait confier à des mains étrangères, car cet enfant, né de la veille, n'avait déjà plus de famille. Son père était mort l'épée à la main au service du roi, et sa mère, qu'il était condamné à ne jamais voir, dont il devait ignorer l'existence et le nom, et qui venait en le quittant de lui donner le seul baiser qu'il dut recevoir d'elle, sa mère s'appelait Diane de Vaudray. Pardonnez-moi, mon père, l'affreuse douleur que vous allez ressentir et dont je suis la cause. Mais rassurez-vous, l'honneur de votre nom restera sans tache. J'ai pu, dans l'égarement de la jeunesse et de la passion, commettre une grande faute. Mais, puisqu'hélas, elle est maintenant irréparable, du moins, personne au monde n'en apprendra le secret. Vous-même, vous n'auriez jamais rien connu de mes souffrances ni de ma honte sans la nouvelle et rude épreuve qu'à votre insu vous venez de m'imposer. Elle m'a fait un devoir de ne rien vous cacher. Répondez maintenant, ô mon père, puis-je donner ma main à l'homme d'honneur qui m'offre la sienne ?»« Ah !» s'écria Marion, que l'émotion et les larmes étouffaient. « Je savions bien que t'étais une honnête fille. » Et elle prenait dans ses deux mains la tête de Diane qu'elle couvrait de baisers. « Écoute, il me semble avoir entendu marcher. Qui donc peut venir ainsi au milieu de la nuit ? On frappe ? Ouvrez ! » dit le marquis d'une voix rude. « Mon père ! » s'écria Diane toute tremblante. Le marquis, en rentrant chez lui, avait renvoyé son valet de chambre. Il voulait être seul. Il se sentait agité, nerveux et n'ayant plus aucune envie de dormir. Il avait pris un livre dans sa bibliothèque, puis il s'était étendu dans un grand fauteuil, essayant vainement de lire afin de se distraire. Mais il se releva bientôt et se mit à marcher avec agitation, cherchant à s'expliquer la douloureuse expression du visage de sa fille à l'annonce de son prochain mariage avec le comte. Tout en se parlant à lui-même, il s'était approché de la fenêtre pour fermer les rideaux, et il fut très surpris en voyant qu'une lumière brillait encore dans la chambre de Diane. De la lumière, à 2 heures du matin ? Et Diane n'était pas seule ? On voyait l'ombre d'une autre femme. Une minute après, il se présentait chez sa fille. « D'où vient, dit-il en entrant, que vous ne soyez pas couchée à 2 heures du matin ?» Diane, qui avait eu le courage de lui écrire, n'avait pas la force de lui répondre. Une terreur profonde cadenassait ses lèvres. Elle demeurait interdite et la tête basse. « Voyons, » lui dit le marquis en cherchant à adoucir sa voix. « Dites-moi ce que vous éprouvez, ma chère enfant. Dites-moi d'où vient que vous avez accueilli, d'une si étrange façon, la surprise que je vous avais ménagée. » Au moment où il achevait de prononcer ces paroles, les yeux du marquis s'étaient portés vers le petit bureau, sur lequel se trouvaient encore la bougie, le papier et les plumes. « Ah ! » dit-il en les montrant du doigt, « vous écriviez ? Et à qui donc, je vous prie ?»« À vous, mon père. »« À moi ? Et qu'aviez-vous à me dire ? Par correspondance ?»« Cette lettre vous la prendra. » »« Ah ! Bon Dieu ! Elle la lui donne !» murmura tout bas Marion, épouvantée en se signant. Le marquis étonné regardait la lettre sans la déplier. « Ah, je commence à comprendre, » fit-il, et sa voix redevenait dure, son regard menaçant. « Oui, » reprit-il après un silence, « cette lettre doit renfermer quelques confidences que vous n'osiez pas me faire de vive voix. Le secret de votre conduite est là, sans doute. » Il avait ouvert la lettre. « Oh, pas devant moi, » s'écria Diane suppliante et les mains jointes. « Pas devant moi. Quand vous serez seul, souffrez que je me retire. Je reviendrai dès que vous m'appellerez. « C'est inutile. Restez. Je ne lirai pas cette lettre. Je la déchire et je la brûle. Je ne veux rien savoir de ce que vous aviez à me dire. Vous l'entendez ? Rien. Mais retenez bien mes paroles. Votre mariage aura lieu, parce que telle est ma volonté. Et s'il y a de votre part le moindre obstacle, quel qu'il soit, je le briserai. » Après avoir prononcé ces mots d'une voix irritée, le marquis sortit aussitôt de la chambre. Diane, consternée, s'était affaissée sur une chaise. « C'est tout de même heureux qu'il ait brûlé cette lettre sans la lire, » dit Marion en s'approchant de sa jeune maîtresse. « Ma pauvre petite fille, » murmurait Diane, « pauvre chère enfant, quel sort nous est réservé à toutes les deux. Si votre père savait seulement qu'elle existe, il serait capable de la tuer. » À ces mots, Diane se releva fière et forte. « Eh bien, il ne le saura jamais, » dit-elle, « ni lui, ni personne. Puisque mon père l'ordonne, je serai comtesse de Lignières. Et ma fille vivra loin de tout danger. Il le faut, et tu m'y aideras, Marion. » À la bonne heure, répondit la Bretonne. Voilà qui s'appelle bien parler. Et si plus tard, continua Diane, Dieu permet qu'une fois encore je puisse la revoir et l'embrasser, je n'aurai plus rien à désirer sur terre. Je mourrai heureuse et la conscience tranquille.